l'histoire d'elle. Quand on apprend l'histoire à l'école, on nous enseigne les faits et gestes glorieux et héroïques des grands hommes. Les femmes sont étonnamment absentes de l'histoire, de la littérature, des sciences. N'ont-elles vraiment rien dit, ces femmes, ou bien ont-elles été soigneusement écartées des manuels d'histoire écrits par des hommes ? Thérèse Moreau, historienne lausannoise, est allée fouiller dans les archives et nous parle de quelques grandes femmes que les hommes qui écrivent cette histoire ont soigneusement mis dans les poubelles de l'histoire.
Thérèse, tu es historienne et tu as mis sur pied un cours où tu parles des grandes figures de femmes de l'histoire du 19e.
Oui, alors, d'abord, j'ai mis sur pied un cours, mais je l'ai mis sur pied l'année dernière et cette année, pour des raisons personnelles, je ne l'ai pas fait. Hein. Donc, je parlerai surtout de ce que j'avais fait l'année dernière, puis peut-être du projet que j'avais eu. Qui, en fin de compte, était un peu le même que pour le colloque, dans le sens que je trouvais que beaucoup de choses que les femmes ont dit, ont pensé, se répètent à travers les siècles, et qu'une génération après, il y a une génération de féministes, tout s'écroule, parce qu'on a acquis un certain nombre de choses. Alors, les filles de ces femmes-là oublient. Et puis les filles de ces filles-là, ensuite se trouvant défavorisées, recommencent. Et il me semblait que la réflexion féministe a chopé là-dessus, qu'on était toujours à recommencer, à dire les mêmes choses, sans jamais aller au-delà du constat, sans jamais proposer. Or, le 19e siècle, c'était un siècle que je connaissais bien. Et quand j'avais fait Michelet, j'avais été très frappée par le fait que ce que tout le monde disait être si original de ma part, hein, que j'avais une vision particulière originale de Michelet, après avoir lu, bon, je l'ai fait, et puis ensuite j'ai trouvé des féministes de l'époque, et je me suis aperçue qu'elles disaient exactement la même chose que moi sur Michelet, sauf peut-être au niveau du langage, parce qu'on n'a plus la même appareil critique, mais sur la misogynie, sur les remèdes à y porter, elles disaient exactement la même chose. Alors ça m'a frappée que, dans le fond, j'avais fait un travail inutile. J'aurais pu passer outre et faire autre chose de plus utile pour nous toutes et puis également pour moi. Donc je voulais faire ce cours pour montrer, d'une part, que les femmes avaient déjà réfléchi à ces questions-là, qu'on avait proposé un certain nombre de solutions qui étaient importantes et intéressantes, que sur certaines choses où on se déchirait entre nous, où on se disputait, les mêmes choses avaient eu lieu, et puis on pouvait prendre les leçons de l'histoire, voir la solution qui avait été choisie et où cela avait amené le mouvement féministe. Et puis aussi, tout simplement parce que y a tout un tas de grandes écrivaines qui sont complètement ignorées.
Mr.
Alors, je vais prendre quelqu'un dont je n'ai pas parlé, mais parce que ça va être son bicentenaire cette année. Marceline Desportes de Valmore aura 200 ans au mois de juin. Bon, elle ne sera nullement fêtée, alors que tout le monde a parlé de Hugo, on a fait le centenaire Hugo. Quand ça a été Zola pour Germinal, il y a eu un grand truc. Bon, la France a honoré ses grands-pères. Hein. Pour Marceline Desportes de Valmore, à ma connaissance, il n'y aura strictement rien. Bon. Bon, voilà, tu la connais pas. Alors, d'une part, quand on la connaît pour avoir fait des poèmes sur la maternité douloureuse, entre autres, et puis pour un petit poème qui s'appelle « Les roses de Sadi », qui est « Ce matin, je t'ai cueilli des roses », et puis ensuite, elles étaient tablier étant trop plein, les nœuds du tablier cassent, et elle ramène juste le parfum des roses sur elle. Bon, qu'on interprète toujours soit comme un poème d'amour filial. En France, les enfants l'apprennent à l'école. C'est le poème de la fête des mères depuis 40 ans. Ou ensuite, quand on le fait à l'université, on dit c'est très sexuel. Elle fait sentir là où était son tablier, le parfum des roses. Donc, c'est un poème sur la sexualité. Hein. Et puis, moi, j'ai découvert ça, Amnesty me demandant des poèmes sur les femmes et la liberté. J'ai cherché dans un livre et c'est comme ça que je me suis aperçue que, par exemple, ce poème dont tout le monde parle, en disant c'est soit filial, soit sexuel, c'est en vérité un poème fait sur l'amitié et entre autres l'amitié qu'on porte aux proscrits, aux gens en prison. Alors, à ce moment-là, je me suis intéressée à ce qu'elle avait fait. Je me suis aperçue que, d'une part, au point de vue vie, c'était intéressant de voir qu'elle avait... C'est une femme qui a commencé à travailler à 14 ans parce qu'elle était d'un milieu pauvre. Elle a été comédienne. Bon, être comédienne, à l'époque, ça voulait dire non seulement travailler sur scène, ça voulait dire faire les costumes, écrire les textes. On faisait tout dans le théâtre à ce moment-là. Qu'elle était une comédienne assez réputée pour ses contemporains et ses contemporaines, mais que surtout, elle était réputée pour avoir fait de très très grands poèmes sur les ouvriers de Lyon lors de la révolte des Camus, sur les proscrits après 48, et qu'elle avait énormément lutté pour les droits de l'homme en général, et d'autre part pour les droits de la femme, parce qu'elle était amie avec beaucoup de féministes, et beaucoup de femmes de 48 qui ont été mises en prison ont été défendues par elle. Elle est allée trouver le roi, elle est intervenue au niveau des journaux, enfin elle a fait une campagne en faveur de ces femmes, ce que personne ne savait. Alors je trouvais qu'il était bon qu'un certain nombre d'autres personnes connaissent ces femmes, puissent les apprécier, puissent les lire, et puis que, puisqu'il n'y avait pas de women's studies, hein, et que quand même les personnes qui ont suivi ce cours étaient en majorité des femmes qui étaient à l'université aussi, plutôt qu'elles fassent un énième diplôme sur Kafka ou sur Hugo, qu'elles choisissent des femmes, soit dans la littérature allemande ou anglaise ou italienne ou française. Et bon, on a parlé, entre autres, de Flora Tristan, qui est très connue, mais d'Adèle Esquirós, qui est absolument inconnue, je pense que personne ne sait qui c'est. Bon, c'était une des premières socialistes en France. Elle a fait des livres, en particulier, sur la prostitution. Hein. Et elle a écrit une série d'ouvrages sur le type de femme qui se prostituait, mais enfin le type social, hein. Et les raisons pour lesquelles elle se prostituait et comment faire pour ne pas se prostituer. Et entre autres, elle a été très en avance sur ce qu'elle proposait dans l'éducation des femmes. Hein, parce qu'elle avait bien vu que le problème de la prostitution était un problème de survie, que la plupart des femmes qui se prostituaient étaient des femmes qui étaient illettrées, qui étaient des femmes qui avaient des métiers très aléatoires et sous-payés. Et on voit donc là toute une élaboration. En plus, c'est pas des grands romans, hein, parce que souvent c'est des romans didactiques, mais enfin ce sont des romans touchants et puis qui ont beaucoup à apprendre, et elle n'est pas la seule. Bon, je pense que même George Sand, dont on connaît qu'un certain type de roman, il est bon de connaître Indiana ou d'autres ouvrages qui sont beaucoup plus féministes et politisés. puis aussi de changer l'image qu'on a de George Sand, disant quand elle était jeune, elle était... Bon, en fin de compte, c'est très sexiste tout ce qu'on dit, y compris le discours féministe sur George Sand. Parce qu'on dit quand elle était jeune, elle se conduisait en homme, elle séduisait les hommes, elle était révolutionnaire. Puis quand elle est devenue vieille, enfin en gros à la ménopause, elle est devenue la bonne dame de Noah. Bon, et puis on s'aperçoit que quand on lit vraiment toutes ses œuvres, ça n'est pas aussi simple, qu'il y a une gradation, que jamais elle a été aussi féministe que nous on l'a dit dans la première période, et qu'en tout cas elle n'a jamais été ce que, anti-féministe dans sa deuxième période. Et puis qu'elle a écrit un ouvrage peu connu qui s'appelle « Les lettres à Marcy », où elle explique son féminisme et qui donne une vision tout à fait différente de ce qu'elle était et de pourquoi elle a écrit certains ouvrages.
Thank you.
fond, je voulais, en gros, passer tout ça, passer une connaissance que je trouvais que j'avais, puis essayer de passer une certaine passion de la littérature, espérer que le jour où assez de femmes parleront de toutes ces femmes, les éditeurs ne feront plus ce qu'ils font quand on va leur proposer une réédition d'un livre de femmes, qui est en général une femme non recevoir. Bon, par exemple, j'ai dit à Dalice Quiroz, bon, parce qu'elle avait... J'avais proposé à un éditeur de republier ses livres, ce qui ne coûtait absolument rien, puisqu'il faut une reproduction, et c'était, bon, c'est pas intéressant. Ou le livre de Julie Daubier, qui était la première bachelière française,
en
1869, et on ne voulait pas lui donner son baccalauréat, parce que ça allait déshonorer l'institution. Et le ministre pensait qu'il serait obligé de démissionner à la suite. Donc, elle a passé son bac et on a refusé de lui donner. Mais elle a écrit aussi un mémoire qui a été couronné par l'Académie de Lyon, qui s'appelle « La femme pauvre », et qui, à mon avis, est un chef-d'œuvre historique d'analyse sur la femme. Bon, là aussi, il serait bon qu'il soit republié, et aucun éditeur ne veut prendre la peine de le publier parce que c'est un gros ouvrage et que c'est pas intéressant, que s'il avait eu une valeur, il serait déjà publié. Donc, bon, je pensais que ça, c'était une mémoire collective qui était importante et qui, bon, moi, m'avait changé la vie et changerait, j'espère, la vie d'autres personnes en la voyant.
Est-ce qu'il y a une espèce de constance dans ces écrits de femmes de cette époque? Parce que les exemples que tu nous as donnés, ce sont des femmes justement qui s'intéressent par exemple aux luttes ouvrières, à la misère, à la prostitution, donc des femmes qui ont une espèce d'ouverture sociale très grande.
Oui, mais enfin là, c'est parce que dans un sens, moi j'avais choisi. Hein. Je crois que déjà à l'époque, on va trouver des femmes de toute opinion politique. Moi j'avais exclu du groupe toutes celles qui prônaient le statu quo déjà. Ou même celles qui sans le prôner sont comme la comtesse de Ségur, elles sont à la limite. Bien que je crois que la comtesse de Ségur est beaucoup plus subversive que ce qu'on dit, qu'on pourrait la lire de façon féministe et qu'on pourrait relire la comtesse de Ségur. Pour moi, ce qui m'avait intéressé, c'était de faire le lien entre des luttes féministes et en particulier tout ce qui avait été demandé au premier congrès féministe et un travail qu'avaient fait des écrivaines ou des journalistes à partir de 1830 en gros, hein, mais en prenant surtout entre 48 et 70, parce que là on voit avec les révolutions tout un groupe de femmes qui font les choses et qui ont la possibilité de les rendre publiques, alors qu'elles sont moins publiques. Donc elles étaient toutes, si tu veux, mon échantillon à moi, sont toutes, oui, des femmes républicaines, des femmes de gauche. Ceci dit, il faut remarquer aussi que quand elles sont féministes, elles sont presque toutes selon un certain modèle. Moi, j'ai été frappée que toutes les féministes avaient lutté en faveur de Dreyfus, par exemple. Et que Marguerite Durand, qui a fondé la Fronde, ça a été le premier journal à défendre Dreyfus, alors qu'on parle toujours de Zola et de Jacques, alors que dès le départ, la Fronde et les féministes ont pris position en faveur de Dreyfus.
Est-ce que tu parles des Saint-Simoniennes?
Bon, j'en peux d'abord parce que je les connais mal, hein, et puis parce que le peu que je connais, je pense que c'est assez complexe comme situation, dans le sens où elles sont dans une philosophie qui se dit libératrice, mais qui n'y est pas. Hein? Quand on voit la division sexuelle du travail chez les Saint-Simoniens, quand on voit aussi la manière dont les pères, hein, que ce soit Enfantin ou les autres, ce qu'ils se disaient les pères, avait comme attitude vis-à-vis du groupe, je pense que ça serait plus intéressant au niveau politique, parce qu'elle reproduirait peut-être plus les structures qu'il y a dans les partis politiques, y compris les partis politiques de gauche, où on se dit libéré. Mais enfin, il y avait un abus sexuel des femmes, dans le sens que les maîtres du Saint-Simonisme se créaient une sorte de harem quand même. Et puis, alors il y avait des liens de de sexualité entre le père et les femmes, mais il y avait aussi une grande rivalité entre ces femmes-là pour obtenir les faveurs du maître, pour être la mère avec un grand M. Et donc, je ne pense pas que ça soit une simplicité et qu'on puisse dire tout simplement, tu vois...
Très compliqué, mais... Moi, j'ai étudié un petit peu pour faire un petit travail en histoire. Et puis, j'avais trouvé, justement, dans la problématique que tu soulèves, sur le lien entre ce qui a déjà été fait, déjà été expérimenté, j'avais trouvé ces années... Oui, elles sont des années 20-30. Une correspondance avec les débuts du mouvement du néo-féminisme après 68. J'avais trouvé des expériences qu'elles ont faites de vie communautaire ou bien d'expériences de vie alternative, entre guillemets, qu'elles ont essayé jusqu'au bout avec une dose de romantisme. Et puis aussi, elles ont fait un journal et il y en a qui ont essayé d'échapper à cette rivalité. Il y en a qui ont trouvé une solidarité entre elles. Il y en a qui se sont suicidées. Il y en a qui sont allées dans le tiers-monde faire la sage-femme, par exemple. Suzanne Walkin, elle a fait ça. Et j'ai retrouvé des expériences de vie et même des personnages qui m'ont rappelé des femmes que je connais très bien, dans des vies très mouvementées, et où elles ont soulevé, bon, le peu que je connais, elles ont soulevé tous les thèmes. Elles les ont soulevés tous, comme en 68, le MLF a soulevé tout. Et puis après, elles ont laissé tomber, elles ont mal fini, elles ont rien. Et après, vers 48, ben, le mouvement est devenu autre chose. C'était le mouvement qui a porté en avant les thèmes, qui les a négociés, qui a porté à une législation, etc. Et j'ai vu aussi un parallèle avec l'après-MLF, l'après-68, où il a fallu bien se mettre sur le terrain de la loi, essayer de changer les lois, la loi sur l'égalité, la loi sur le divorce. Et bon, c'est très schématique, mais j'ai vu dans les Saint-Simoniennes une espèce de précurseuse, sans dire que c'est les premières, parce qu'il n'y a jamais de première, mais des... Ouais, j'ai trouvé très intéressant.